La question macro, vous avez déjà commencé à y répondre, c'est les moteurs de l'économie après la guerre. Pour vous, Valentin, c'est clair, hein, c'est vraiment le rapport à l'IA. Quoi. Ça va être ça, le moteur principal.
Aux États-Unis, c'est le rapport à l'IA. Et en Europe, on a quand même ce changement de cap qu'on attend sur le budgétaire allemand. Et en Europe, on augmente aussi les dépenses sur la défense et on a une transition énergétique. Sur l'Europe, on a ces moteurs-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder globalement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, tous les moteurs de croissance réclament des investissements monstrueux.
Massifs.
Et pour moi, ça veut dire...
C'est ce que disait un peu Sébastien, pour la partie IA, quoi.
Bah, pour la partie IA, oui.
Et pour la partie énergie de l'IA.
Mais précisément, je pense que c'est ce qui, à mon avis, doit questionner l'idée qu'on a tous que les taux d'intérêt vont baisser. C'est pour ça que c'est pas un retour à la normale.
Ah bon?
Ce qu'on va avoir, c'est quand même une accélération des dépenses, déjà pour reconstituer les stocks militaires, accélérer la dépense de défense.
Ah, mais si la croissance ralentit, vous êtes économiste.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez, par exemple, typiquement les États-Unis, pour se dire les choses, il n'y a aucune raison que les taux d'intérêt américains rebaissent fortement. Même si la Fed devait baisser les taux courts, elle veut dans le même temps réduire la taille de son bilan, donc c'est plutôt une haussier taux long. Mais si vous prenez juste les États-Unis, aujourd'hui, les taux d'intérêt américains, ils vont plutôt monter. Vous avez un déficit américain qui est plutôt de l'ordre de 7%. Vous avez un coût d'intérêt de la dette américaine qui est aujourd'hui de 3,3% du PIB. On parle de 1 000 milliards. Hein. Les intérêts de la dette américaine, c'est supérieur au budget militaire américain. Le CBO, cette semaine, nous dit, dans 10 ans, messieurs, dames, le comité du congrès budgétaire, qui est pourtant dominé par les républicains, dit, en 2036, dans 10 ans, c'est 4,6% du PIB, ça double à plus de 2,3 trillions.
Donc vous dites, même si l'inflation rebaisse, les taux d'intérêt...
Si vous devez investir dans la défense, si vous devez investir dans l'électrification, parce que vous avez bien vu que c'était un énorme problème de dépendre d'une petite zone pour votre mix énergétique qui n'a aucun sens, qu'en plus de ça, vous avez des dépenses démographiques, qu'il faut tenir la distance sur la course à l'IA, vous n'avez aucune raison que la course à l'épargne mondiale fasse autre chose que maintenir des taux élevés.
C'est pour ça qu'on
va avoir
des pressions sur les taux longs. Hein.
Défense, IA, pardon. Allez-y.
Mais ce qui ne veut pas dire que les banques centrales vont devoir baisser leurs taux. Parce que comment est-ce qu'on finance tous ces montants d'investissement? Si on regarde en Europe, il y a l'Allemagne qui a une marge de manœuvre budgétaire, mais ni la France ni l'Italie ont des marges budgétaires pour financer ces investissements. Et si on veut que ce soit aussi des investissements qui viennent du privé, les niveaux de taux longs aujourd'hui sont beaucoup trop élevés. Les niveaux de taux réels aujourd'hui en France et en Italie, pour moi, sont sur des niveaux restrictifs aujourd'hui.
Sébastien, défense, IA, vous dites l'énergie?
L'énergie.
Les moteurs de la croissance.
De toute façon, c'est la souveraineté en général. Et la souveraineté aujourd'hui, c'est la défense, l'énergie. L'IA, en sachant que SpaceX, une fois encore, qui a publié les documents pour son IPO, pour son introduction en bourse, 20% du chiffre d'affaires de SpaceX en 2025, c'était avec l'État américain. Donc la souveraineté, il faut pas faire qu'en parler. Il faut aussi la faire concrètement et que les États stratèges, alors ça fait peur hein, quand on parle d'État stratège, surtout en France, il faut que l'État s'implique et sa souveraineté, c'est-à-dire que donne des contrats, donne de l'argent à des fournisseurs européens, idéalement français et européens. Et le problème, c'est que face à ça, en Europe, il n'y a pas cette conception, n'existe pas. On l'a vu tout le temps, notamment avec nos amis allemands. Et c'est le seul moyen pour avoir des entreprises...
Vous demandez plus d'État, vous?
Non, je demande de l'argent qui arrête d'être...
Mais vous demandez plus d'argent de l'État, mais l'argent de l'État, c'est le nôtre.
D'une certaine manière, je suis profondément libéral, mais il n'y a jamais eu... Oh ben, mais il faut faire des choix. Le problème de même avec de l'IA, ce que vous voulez, à la fin, c'est un nouveau paradigme, ce qui arrive, mais il faut être capable de décider, il faut des gens courageux et faire des choix.
Je suis d'accord, mais ça veut dire réduire les dépenses publiques, couper le budget de dépenses sociales, travailler plus longtemps,
baisser
les retraites...
C'est pas parce qu'il y a une guerre en Iran que les problèmes structurels n'existent pas. Et dans le monde de demain, il y aura les mêmes problèmes structurels. Et sauf que ça fait 30 ans qu'on met tout sous le tapis. Là, le tapis est plein. Donc, il va falloir adresser sujets.
Non, mais ça fait 30 ans qu'on dit que le tapis est plein. C'est ça. Par exemple,
mais c'était
pas vrai. En France, moi-même, je l'ai dit, je sais pas, 20 fois sur les 15 dernières années, que c'était ça y est, on est à l'heure de vérité. On va pas pouvoir passer. Puis à chaque fois, on passe et on se ridicule.
La différence, c'est que là, on emprunte combien? 300 milliards par an, à peu près?
Ouais.
300 milliards par an que les maths, à la fin, c'est que des maths. Hein. Les
retraites, je comprends, mais pour moi, mais au début, c'était que des maths, et à la fin, c'est toujours des maths. Mais qui dit que c'est à la fin? C'est ça que je... Stéphanie?
Non, mais on voit quand même qu'il y a une vraie prise de conscience, notamment...
Vous trouvez, vous?
Oui, en fait, je ne suis pas sûre qu'on sache forcément tout non plus, mais sur, par exemple, l'Allemagne qui vient de remplacer, ils sortent Palantir pour mettre une filiale de Coloris, etc.
Mais il n'y a pas une prise de conscience de notre situation financière dramatique. Regardez les programmes pour 2027 qu'on commence à avoir, c'est pire.
Mais ce qui est intéressant,
non, pardon, Stéphanie, vous avez fini?
Oui, oui, non, mais je pense qu'effectivement, vous avez raison sur cette prise de conscience financière. Il y a peut-être un moment où il va juste falloir dire stop, on arrête.
Mais qui va dire stop? C'est ça que je ne comprends pas.
Peut-être l'Europe.
C'est ça que j'attends. Mais moi, j'attends ça depuis des années.
C'est la réalité. Donc.
Jean-François.
Non, ce que je trouve aussi intéressant pour rebondir sur les deux précédents propos, c'est qu'il y a une grosse différence justement dans les capex qu'on va avoir besoin de faire.
Alors, les capex, expliquez pour
les gens. Sur les dépenses d'investissement en capital qu'il va falloir faire pour toutes ces grandes tendances qu'on a évoquées, l'électrification, la défense, voilà, l'IA. Il y a quand même une grande différence, c'est que la défense, c'est pour l'État. On ne va pas demander aux boîtes d'investir dans la défense. C'est évidemment la part du souverain par définition.
Donc, c'est encore du budget.
Là, nous, on est à 2,1% de nos dépenses publiques françaises qui sont en défense. Il faut qu'on passe à 3,5%. On s'est engagé à le faire, mais ce n'est même pas pour faire plaisir à Trump. C'est qu'on voit bien que le monde est devenu très, très flippant. Donc, il faut trouver 2 points de PIB rapidement dans la défense. En revanche, moi, je trouve que les dépenses dans l'IA, les dépenses dans l'électrification, pour le coup, on peut tout à fait penser que c'est les entreprises qui pourraient prendre leur part de ça, parce que finalement, il n'y a pas besoin que ce soit l'État qui le fasse. Les entreprises ont quand même encore des taux de marge et des capacités financières. De plus en plus, j'ai envie de dire, parce que
surtout les leaders de la tech qui sont les premiers consommateurs.
Et surtout,
sauf ce que dit Sébastien, c'est qu'elles vont répercuter et vont nous faire payer plus cher leurs services.
Oui, mais ce qu'on voit quand même, c'est que les capacités de ce financement, typiquement les 7 magnifiques, là, si vous en prenez 5, ils ont émis 160 milliards de dettes depuis jusqu'à fin mai, là. Donc on voit bien que c'est eux qui sont en train de s'endetter pour investir. Et je trouve que ce modèle-là, il me semble pas complètement, il est pas inintéressant. C'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer qu'il y a des entreprises, c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est déjà le cas en Europe pour ça.
Qui prennent le lead
et qui financent moins cher que l'État. Donc l'État lui laisse vraiment les dépenses les plus souveraines.
C'était le cas déjà. Quand Amazon s'est endetté, moins cher que
je pense que ça va continuer et augmenter.
Hein. On voit bien quand même aussi qu'il y a peut-être moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques sociétés qu'on voit régulièrement dans le portefeuille qui ont fait elles-mêmes leur propre infrastructure, qui sont du coup dépendantes de leur propre LLM. Je pense à Equasens qui s'occupe de toutes nos défenses, nos données de santé. Je pense à SiteTrade qui a fait son propre data center en disant effectivement, si j'avais mis ça sur AWS, je serais tributaire dû la hausse du prix à la fois de l'abonnement et puis des tokens. Là, je gère mes propres tokens. Donc en fait, on peut reprendre la main aussi sur nos infrastructures et sur la manière de le faire de manière peut-être plus économe.
Juste on a une minute, Sébastien, vous pouvez expliquer l'histoire des tokens parce que je suis pas sûr que ce soit très compréhensible pour tout le monde.
En fait, aujourd'hui, quand vous achetez en tant que particulier ou même en tant qu'entreprise un abonnement à Cloud, vous êtes limité dans l'usage que vous faites parce qu'un token, en fait, c'est l'unité de consommation,
d'accord,
si vous voulez. Et en fait, ce qui est arrivé récemment, d'accord, c'est que déjà ils ont réduit de façon unilatérale.
Comme après, quand on avait les forfaits limités.
Exactement. En fait, ils ont déjà réduit. Aujourd'hui, déjà, avec l'usage augmente, hein, parce que quand vous mettez implanté ça dans votre entreprise.
D'accord, mais qu'est-ce que ça change? On payera plus cher.
Oui.
Oui, c'est après, vous pourrez. Après, jusqu'à présent, c'est des abonnements.
Oui.
Et en fait, à un moment, au-delà de 100 euros, vous allez payer à l'usage. Et quand vous payez à l'usage, c'est pas du tout la même histoire. En fait, c'est infiniment plus cher. Pour la petite histoire, Microsoft, qui avait introduit Anthropic et Claude dans sa boîte, a déclaré la semaine dernière, ça y est, on enlève Claude parce que c'est trop cher.
D'accord.
Et moi, je pense que j'en ai parlé récemment avec un patron d'entreprise qui me disait, qui développe dans les PME ses services en disant pour l'instant il y a un peu d'attentisme de la part des entreprises pour ces installations parce qu'elles ont peur, elles maîtrisent pas le coût.